Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 26 septembre 2016, les titres. Deux personnes, dont un agent de la garde nationale, ont été tuées hier à Tombouctou par des hommes armés non identifiés. Une enquête serait en cours pour retrouver les assaillants. Les habitants de Tombouctou se disent préoccupés par cette situation. Selon les autorités locales, les stratégies mises en place par les forces de défense et de sécurité pour prévenir ce genre de crimes sont limitées. 3000 logements sociaux seront disponibles en fin 2016. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de l'Habitant. Le syndicat des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré, affilié à l'UNTM, prévoit une grève de 48 heures à partir du 3 octobre prochain. Ses responsables ont déposé un préavis le 9 septembre dernier au niveau des autorités. Fatmata Togola, la présentation. Deux morts, dont un agent de la garde nationale, c'est le bilan d'une attaque survenue hier au quartier Abarajou dans la ville de Tombouctou. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des gens assis devant une maison. Le point avec Ibrahim Diallo.
Le drame est survenu hier soir vers 19h à Abarajou dans la ville de Tombouctou. Des sources locales, les assaillants qui étaient entre 3 et 4 personnes sont venus à bord d'une voiture Toyota. Lorsqu'ils sont arrivés près de leur cible, ils ont aussitôt ouvert le feu sur les occupants de la devanture du domicile. Deux personnes sont tuées, dont un agent de la garde nationale. Une troisième aurait échappé. Les deux victimes appartiennent à la communauté Arawan de Tombouctou. Cette communauté avait bouclé une rencontre juste avant le drame. Des témoins sur place estiment qu'un règlement de compte serait à l'origine de cet assassinat. En attendant, les assaillants restent introuvables et jusque-là, aucune revendication n'a été faite. Les populations de Tombouctou qui sont sous le choc se disent préoccupées par la récurrence de ce genre de crimes dont les auteurs disparaissent après le forfait. Pour rappel, entre décembre 2015 et septembre 2016, la ville de Tombouctou a enregistré 3 cas similaires faisant en tout 6 morts dont 2 membres des forces de sécurité.
Les autorités locales estiment avoir toujours collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour prévenir ce genre de crime. Cependant, selon elles, les stratégies mises en place sont limitées. Ces autorités affirment qu'une enquête est en cours pour retrouver les assaillants. Khalifa Ag Imama, l'adjoint au maire de Tombouctou, joint au téléphone par Ibrahim Diallo.
Il paraîtrait que les gens seraient tranquillement assis quand un individu est survenu à bord d'un véhicule. Et puis voilà, il les a arrosés. Donc deux messieurs sont arrêtés, dont un garde.
Qu'est-ce qui explique la récurrence de ce cas de crime à Tombouctou, puisque ce n'est pas la première fois?
Je ne saurais trop vous dire. Ce que je sais par contre, c'est que vraiment c'est une situation qui nous préoccupe en tant que citoyens tout court de Tombouctou.
Quelles sont les mesures en tout cas qui ont été prises ou qui sont envisagées pour limiter ces cas de crime?
Nous sommes toujours reportés à nos services de défense et de sécurité. On leur a toujours fait appel pour essayer de monter des stratégies vraiment pour limiter cet état de fait, mais on voit que ça continue.
Est-ce qu'une enquête a été ouverte par rapport à ce cas précis?
Il y a une dame qui a été interpellée, donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment une enquête qui est en cours.
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani. Division au sein de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la défense de la justice. Le mouvement d'autodéfense Peul vient de perdre plus de 200 combattants au profit de la paix. Cette dissidence a été annoncée à l'AFP par le vice-président de l'Alliance, Sidi Bekay Cissé. Un conflit de leadership sera à l'origine de cette division. Selon certains observateurs, c'est une bonne chose pour le Mali. Ces analystes estiment que cela pourrait faciliter l'intégration de ces deux parties dans le processus de paix. Daniel, journaliste écrivain, spécialiste des questions sécuritaires, il joue au téléphone par Moumine Sindebou.
La question s'explique, d'après mes informations, par des divergences entre le président du groupe armé et puis son vice-président. La réputation de ce groupe était surfaite, à mon avis. C'est plutôt une bonne chose pour la paix, parce qu'à partir du moment où Kaïsissé dit, par exemple, qu'il veut rentrer dans le processus, M. Algana, à mon avis, va rentrer aussi dans le processus. Je sais d'autre part que M. Algana, c'est-à-dire le président du groupe, est déjà été de rentrer dans le processus avec contact au niveau du haut représentant du chef de l'État pour l'application de l'accord d'Alger. Donc en définitive, ce que je pense, c'est que entre M. Algana, c'est le président du mouvement armé, et M. Cissé qui claque la porte, il y avait une lutte de leadership. Si vous avez une force qui dit nous sommes là pour lutter contre l'armée et que subitement la force se divise en deux, c'est une bonne chose pour le processus.
3000 logements sociaux seront disponibles en fin 2016. L'annonce a été faite ce matin lors de la 39e session du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitant. Selon les responsables de l'EMH, un comité de réflexion sur le mode de financement a été mis en place. Toutefois, ils affirment que plusieurs conventions ont été signées sans un plan de financement conséquent dans le but de réaliser 5000 logements. Ousmane Kone, ministre de l'habitant, est président du conseil d'administration de l'EMH au micro de Imran Akilou Meiga.
2016 a été une année de réalisation d'un nombre très important de logements et de recherche de solutions pour le financement des logements sociaux. 3000 logements sont attendus à l'horizon fin 2016. Un groupe de travail chargé de réfléchir et de proposer des mécanismes de financement innovants a été composé avec des cadres des ministères en charge des finances et ceux de l'habitat. Au titre de 2016, le budget a été exécuté en recette à hauteur de 18 134 173 francs CFA et en dépenses à hauteur de 9 801 163 590 francs CFA, soit respectivement un taux de réalisation de 77,86% et un taux de 42,39% par rapport au budget prévisionnel.
Les autorités du pays disent ne pas disposer en ce moment de moyens nécessaires pour opérationnaliser toutes les régions du pays. Cependant, le collectif des régions non opérationnelles, lors d'une conférence de presse tenue ce week-end à Bamako, a annoncé qu'il ne souhaiterait pas aller aux élections communales et régionales sans l'opérationnalisation de toutes les régions. Il s'agit notamment de Nioro, Kita, Nara, Djouila, Bougouni, Koutiala, San, Badjangara et Douanzan. Le syndicat des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré, affilié à l'UNTM, prévoit une grève de 48 heures à partir du 3 octobre prochain. Ses responsables ont déposé un préavis le 9 septembre dernier. Les revendications du syndicat portent sur trois points, dont le respect des engagements pris par les autorités. Des négociations sont en cours avec le gouvernement. Jimmy Kanté est le porte-parole du syndicat. Il est joint au téléphone par Alousséni Abatouré.
Nous avons déposé le 9 septembre dernier un préavis de grève sur la table du gouvernement du Mali pour 48 heures, c'est-à-dire le 3 et le 4 octobre prochain, si les négociations qui doivent s'ouvrir incessamment n'aboutissaient pas. Les doléances du syndicat s'articulent essentiellement sur trois axes majeurs, à savoir le respect des engagements pris par les autorités, l'amélioration des conditions d'accueil, d'hospitalisation et de soins des patients, ensuite l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière. Et comme vous le savez, l'espace de conciliation que nous voulons forger par ce préavis, nous souhaitons ardemment que cela apporte les réponses salutaires aux revendications formulées. Et cette action syndicale s'impose aujourd'hui pour l'intérêt même des populations, afin que le CHU Gabriel Touré puisse assurer avec efficience la prise en charge des patients à lui référer.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception. Cette journée, qui est à sa 9e édition, a pour objectif d'inciter les jeunes à prendre conscience de l'importance de la contraception. Elle permet également de sensibiliser les femmes sur les différents types de contraception qui existent. Selon les spécialistes, les conséquences des contraceptifs sont dues au choix d'une méthode inappropriée. Docteur Alassane Diko, médecin responsable de la santé de la reproduction, il est au micro de Awa Berthe.
Les avantages des contraceptifs, elles sont nombreuses. Le premier, ça c'est l'espacement de naissance. Chez les jeunes filles, c'est à peu près dans un but de lutter en grande partie contre non seulement les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, mais en même temps de réduire ou alors sinon de stopper les avortements clandestins. Les inconvénients ou alors les conséquences sont des trucs qui peuvent être évités. Lorsque les gens prennent l'initiative de venir dans les structures de santé qualifiées pour qu'on leur donne l'information qu'il faut pour qu'on fasse le préliminaire avant de les mettre sous une méthode. Les contraceptifs, il y en a beaucoup. Le premier, ça c'est le préservatif. C'est le moyen le plus simple et le plus accessible à tous. Il y a des méthodes de courte durée, il y a les méthodes de longue durée et il y a les méthodes de barrière.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, les échos de nos régions. Des hommes armés ont emporté ce week-end des troupeaux d'ovins et de caprins dans le village de Nyodougou, cercle de Nyafunke. Les bandits ont d'abord procédé à des tirs de sommation avant d'emporter tous les petits ruminants qui se trouvaient dans le village et ses périphéries. Les habitants de la zone se disent terrifiés par ces multiples attaques et vols de bétail. Ils réclament plus de sécurité à l'État malien. Un atelier de deux jours sur l'hygiène et l'assainissement a pris fin hier à Zindiguela, une zone rizicole du cercle de Yurusso. 42 personnes ont été formées sur les moyens de prévention des maladies liées aux eaux usées telles que la diarrhée et le choléra. Cette formation a été organisée par la Direction régionale de l'assainissement et de l'hygiène publique. Les travaux d'aménagement de deux mares dans la commune de Minamba, cercle de Yurusso, sont exécutés à 80% selon le maire de la localité. Ces mares devraient permettre de promouvoir la riziculture, la pisciculture et le maraîchage dans la zone, une initiative de l'ONG AMED. Lancement hier de l'édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle à Koulikoro. La cérémonie a été marquée par la présentation des différentes troupes de la région. Les représentants des 7 cercles de la région ont participé à la rencontre. Restez avec nous pour le Grand Dialogue avec Sédou Fomba. Bonsoir Fomba.
Bonsoir.
Alors dites-nous, quel est le thème du Grand Dialogue de ce soir?
Dans le Grand Dialogue de ce lundi, il sera question d'insécurité au nord du Mali et précisément dans la région de Tombouctou. Des attaques de tout genre, la zone Anna assez connu de décembre 2015 à ce jour, 3 cas d'assassinat ont été enregistrés dans la région, dont la dernière en date est celle qui s'est déroulée ce dimanche qui a coûté la vie à 2 personnes, dont un élément de la garde nationale. Qui peut être derrière ces assassinats? S'agit-il des règlements de compte, comme le disent certains? Pourquoi les auteurs de ces crimes sont rarement retrouvés? Que faire pour mieux sécuriser la région? À ces questions et bien d'autres vont répondre nos invités. Nos invités qui sont au nombre de 4, Mamadou Diouara, il est sociologue, Seth Daniel, journaliste écrivain, Yaya Tandina, journaliste à Tombouctou, et Nuhu Togo, ancien chargé de mission au ministère de la Défense.
Merci beaucoup Fomba et bon débat. C'est tout pour cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine.